Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Claude Gauvard une nouvelle fois, car vous êtes déjà venu en 2016, je ne sais pas si ça vous paraît loin, mais pas moi, et votre conférence était consacrée à la violence et à la criminalité au Moyen-Âge. Vaste programme, ça a fait peur un peu, mais bon, vous aviez expliqué que ce n'était pas si difficile que ça. Voilà. Bon, et je rappelle, pour ceux qui vous découvrent, aujourd'hui, que vous êtes professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et vous êtes surtout l'auteur de très nombreux ouvrages. Vous avez aujourd'hui quitté un petit peu votre spécialité, la criminalité, la justice, pour vous intéresser à deux ouvrages et pour publier deux ouvrages tout à fait récemment, que vous voyez là d'ailleurs, pour l'un d'entre eux, et que vous avez écrit le premier en collaboration concernant Notre-Dame de Paris. Alors, demain, dans le cadre de notre atelier d'histoire, alors ceux qui veulent y assister, même si vous ne faites pas parler de l'atelier d'histoire dans cette même salle, vous évoquerez Jeanne d'Arc, dont vous dites que c'est une héroïne diffamée et martyre. Eh bien, encore une fois, madame, merci beaucoup d'être parmi nous. Nous en sommes très honorés. Ah oui, demain, 17h. Nous en sommes très honorés et nous allons vous écouter.
Madame la Présidente, mesdames, messieurs, chers amis, je peux le dire, puisque c'est la deuxième fois que je reviens. Je suis très heureuse d'être ici, à Sarlat, non pas seulement à cause du cadre, non pas seulement à cause des amis qui nous accueillent, mon mari et moi, mais parce que je vais vous parler d'un des sujets qui m'est cher, Notre-Dame de Paris, et je vais vous dire des choses que je n'aurais peut-être pas dites il y a même seulement 6 mois ou 1 an, parce que l'histoire va vite, l'histoire évolue, et on fait des découvertes, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue on se place, l'incendie a permis de mettre au point un certain nombre de choses sur l'histoire même de Notre-Dame de Paris. Et ça n'est pas terminé, puisque les investigations historiques sont encore en cours. Alors, Notre-Dame de Paris, effectivement, a bien failli disparaître. L'incendie du 15 avril 2019 a bien failli la faire disparaître et donner tort au poète Gérard de Nerval dans les Odelettes de 1835. Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrée cependant, Paris qu'elle a vu naître. Mais dans quelques mille ans, le ton fera broncher comme un loup fait un bœuf. Cette carcasse lourde tendra ses nerfs de fer et puis, d'une dent sourde, rongera lentement ces vieux os de rocher. Il a failli avoir tort, puisque fallait qu'effectivement, au dernier moment de cet épisode, que les pompiers sont montés dans la tour nord et ont réussi à arrêter l'incendie. Sinon, effectivement, Notre-Dame était morte, car les cloches qui sont dans cette tour nord seraient tombées et auraient brisé, effectivement, l'ensemble de l'édifice. Alors, je vous disais tout à l'heure, et ça va être l'objet de mon introduction, on a fait beaucoup de progrès sur l'autre Notre-Dame, ou les autres Notre-Dame, qui ont précédé la cathédrale gothique, celle que vous connaissez, et qui a été construite à partir de 1163. C'est la date retenue pour la pose de la première pierre par le pape Alexandre III. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que 800 ans auparavant, donc autant de temps, il y a eu une cathédrale dans l'île de la Cité. Il n'y a pas eu une cathédrale, il y a eu des cathédrales successives, puisque à l'heure actuelle, et c'est l'objet justement du premier chapitre de ce volume par Hélène Moiset, c'est de montrer qu'il y a eu probablement 4 bâtiments qui se sont succédés et qui pulvérisent tout ce que nous savions, tout ce que j'ai pu enseigner, tout ce que j'ai pu écrire aussi sur Notre-Dame auparavant. En effet, elle apparaît, cette cathédrale, certainement au moment où l'Empire devient chrétien, l'Empire romain devient chrétien, donc 312, la conversion de Constantin, 391, date officielle de l'Empire chrétien, sous Théodose, et on pense que la première attestation d'un évêque à Paris daterait de 346. On est donc au milieu du IVe siècle. Grâce à l'archéologie et à la confrontation des textes, parce qu'il faut toujours faire les deux, il y a eu donc 4 cathédrales successives. D'abord une première cathédrale paléo-chrétienne qui s'est implantée dans l'île de la Cité, dans la partie orientale, dès la nomination de ce premier évêque. Alors, ça c'est une carte bien sûr postérieure, et vous voyez qu'elle a été faite justement dans un ouvrage qui s'appelle « Paris de parcelles en pixels », dont Hélène Oiset est un des directeurs, mais pas, elle n'est pas toute seule. Ce sont des reconstitutions à partir des plans de l'époque moderne et des confrontations avec des données archéologiques pour situer à peu près les choses. Alors, pourquoi dans l'île de la Cité? Pourquoi dans l'île de la Cité? Eh bien, c'est le moment contemporain, au IVe siècle, d'un glissement de la population parisienne, de la ville gallo-romaine qui était située sur la rive gauche, où on voit encore les arènes, et on voit surtout les thermes de Sully, du musée de Cluny, excusez-moi, les thermes de Cluny. Donc, l'île de la Cité n'était pas occupée. On n'a aucune trace archéologique d'une implantation gauloise. Aucune. Cela veut dire qu'il n'y avait pas d'habitation. Et vous le savez peut-être, on n'est même pas sûr que Lutèce, ça soit Paris. Lutèce, c'est peut-être Nanterre. Ça, je ne peux pas rentrer dans cette démonstration, mais on n'est pas sûr, si vous voulez, qu'il y ait eu, que Paris ne se soit pas créé, si vous voulez, en même temps que le mot lui-même, c'est-à-dire justement au IVe siècle. On n'a donc aucun sanctuaire gaulois, aucune trace d'occupation gauloise. Donc il ne faut pas partir de l'idée que la cathédrale s'est implantée sur un sanctuaire primitif païen. Non. Elle est probablement partie de rien. C'est une nouvelle cathédrale qui se crée ensuite au VIe siècle. Donc, IVe siècle, ça ne devait pas être grand-chose. Vous imaginez un habitat paléo-chrétien, un bâtiment paléo-chrétien, ce n'est pas grand-chose. À la suite, au VIe siècle, sous les Mérovingiens, donc, on a l'attestation par les textes d'une cathédrale dont on admire les colonnes de marbre, et là on a des vestiges archéologiques qui subsistent. Je ne vous ai pas fait de photos, mais il y en a dans le livre, elle en a redonné, qui ont été retrouvées, et les textes vantent la luminosité de ce bâtiment. Et il existe sans doute, dès cette époque mérovingienne, un baptistère à côté de la cathédrale, à l'emplacement de Saint-Jean-le-Rond, et qui est reconnaissable par sa forme, justement, ronde, et qui a disparu, bien entendu, puisque le baptême se faisait alors par immersion. Il y avait toujours 3 marches pour descendre dans la cuve, et là, on avait une immersion à la manière du baptême du Christ. Puis, donc ça, c'était la deuxième cathédrale. Troisième cathédrale au IXe siècle, à l'époque carolingienne. Une cathédrale reconstruite, avec, sous la forme de ce que les textes disent, être un grand bâtiment, avec 3 vaisseaux, et peut-être même 5, situés en avant de la cathédrale actuelle. En avant, donc vers l'ouest de la cathédrale actuelle. Cette construction correspond, tout simplement, à la fin du règne de Charlemagne et à l'époque et au début du règne de Louis le Pieux, à l'époque où il existe une réforme religieuse qui fait très attention à la liturgie. Autrement dit, la partie rituelle la plus significative des offices fait son apparition de façon codifiée à partir du IXe siècle. Et on décide alors que l'évêque doit être aidé pour cette liturgie par des clercs qu'on appelle les chanoines, dont le statut est différent de celui des moines. Ils ne vivent pas dans un monastère, ils ne vivent pas selon une règle qui les incite à la clôture, ils ont des habitations séparées dans ce qui est appelé un enclos, qui est fermé par des murs, hein, et ils bénéficient à l'intérieur de cet enclos d'un certain nombre de privilèges, comme l'immunité, et c'est Charles le Simple, par exemple, en 911, qui ratifie l'immunité des chanoines de Notre-Dame de Paris. Puis arrive le XIe siècle. XIe, XIIe, début du XIIe siècle. Et là, on entreprend un quatrième bâtiment, hein, qui... Alors, est-ce que c'est une transformation du bâtiment carolingien? Est-ce que c'est un bâtiment nouveau? C'est un point d'interrogation encore. Et encore là, les choses vont peut-être avancer. Donc ce que je dis aujourd'hui sera peut-être désuet dans quelques années. Mais on connaît cette nouvelle cathédrale, en tout cas, par le réemploi du portail Sainte-Anne, c'est-à-dire du portail qui est situé au sud de la façade, hein, du côté sud, donc du côté de la rive gauche, si vous voulez, c'est le portail Sainte-Anne, et vous voyez bien que vous avez, dans la position hiératique de Sainte-Anne, qui se situe tout en haut, quelque chose qui vous montre qu'on est encore dans l'art roman. Vous voyez, cette statue relève de l'art roman plutôt que de l'art gothique, bien entendu. Et ce portail a été très peu retouché dans cette partie-là du tympan par Viollet-le-Duc. Donc là, on est dans le Moyen-Âge pur et dur, et on y reviendra, hein, sur ce portail. Mais ne regardez pas le Saint-Marcel qui est en bas, là, on y reviendra aussi. Ça, c'est du Viollet-le-Duc. Mais en haut, vous avez... c'est pas que c'est soit moche, c'est pas ça. Je veux dire, je vais vous dire des choses très, très positives, hein, sur Viollet-le-Duc. Mais là, vous avez, effectivement, un portail qui a été réinséré, et on le voit parce qu'il a fallu, ouvrir, pour le remettre dans l'architecture, il a fallu ouvrir. Donc on sait par les traces laissées sur les côtés qu'il a été réinséré à partir, c'est le seul élément qu'on connaisse dans la cathédrale, de la cathédrale gothique, de ce qui était des cathédrales d'auparavant. Ce portail Sainte-Anne, donc, voilà, c'est un vestige, en quelque sorte, de ce passé de 800 ans dont je viens de parler. C'est, vous voyez, on en sait des choses fausses. C'est bien de revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions sur le nom de la cathédrale qui avait précédé Notre-Dame. Et comme on voit apparaître dans les textes, soit Saint-Étienne, soit Sainte-Marie, soit parfois même Saint-Germain, un des premiers évêques de Paris aussi, on a pensé à une cathédrale double. Il y avait deux cathédrales. L'une dédiée à Saint-Étienne, une autre à Sainte-Marie. C'est complètement faux. Il n'y a qu'un seul bâtiment, hein, qui, finalement, se fait appeler Sainte-Marie de façon pratiquement total à partir du IXe siècle, avec l'arrivée justement des chanoines. Alors, toutes ces cathédrales, et surtout les deux dernières, constituent ce qu'on appelle un groupe épiscopal. Alors là, je n'avais pas tort de l'enseigner, c'est tout à fait juste. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe épiscopal de cette époque? C'est le baptistère, c'est l'Hôtel-Dieu, qui existait déjà et qui était situé à l'époque... Tu peux peut-être revenir en arrière sur le plan, voilà, qui était situé à l'époque à l'emplacement de l'Hôtel-Dieu actuel. Voilà, il était situé là, vous voyez? Bon, donc ça c'est là. Puis un palais épiscopal, qui était au sud, comme actuellement, hein, et des églises annexes, comme la basilique Saint-Étienne, justement, et Saint-Christophe, mais qui sont des églises annexes, et non pas des cathédrales. Le remplacement est mal connu, et pour cause, parce qu'ils sont recouverts, tous ces emplacements, par de ces églises annexes, par la cathédrale. Donc voilà pour le nom, voilà pour le groupe épiscopal, et maintenant, je voudrais passer, si vous voulez, à la réalité de la construction de la cathédrale gothique que vous attendez tous, mais qui est le fruit de l'évêque Maurice de Sully, qui décide tout de go de construire cette fois une nouvelle cathédrale. Donc voilà une première partie sur la construction de la cathédrale gothique, puis on verra quels sont les messages de Notre-Dame, et enfin comment elle a pu évoluer. Donc, d'abord, les étapes de la construction au Moyen-Âge. Mais c'est incontestablement l'œuvre de Maurice de Sully, de sa volonté, qu'il arrive à l'épiscopat en 1160 et il meurt en 1196. Ce qui est une chance folle, parce qu'il a vécu longtemps et il a pu mener à bien une grande partie de la construction, pas totalement. Qui était-il ? C'est pas sûr. Qui était-il ? Origine obscure. Probablement même peut-être fils de serf. En tout cas de bûcheron. Il faut toujours se méfier hein, des vides saints, hein, parce qu'il a été. Il a eu la géographie autour de Maurice de Sully. Hein. Il a eu des vies de saints hein, qui ont raconté ça. Sa propre histoire. Et là, il y a eu peut-être aussi des abus, si vous voulez, en présence de cette origine très obscure qui fait qu'après on monte, hein, évidemment, dans la hiérarchie. Mais c'est quand même un bel exemple de promotion par l'intelligence. Et c'est pas grave. Vous savez, il y a deux façons d'être. Oui.
Tu peux montrer discret.
Oui.
Malheureusement,
on vient
de l'Orient. On n'a pas eu de
mail disant que c'est pas grave. Allez-y. Vous arrivez avec la cathédrale gothique, c'est pas mal.
C'est très bien.
Alors, les 800 ans, c'est pas grave. Bon, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. On va y aller. Vous me posez une question après. Donc, je reviens à Maurice de Sully. Il y a deux façons. D'abord, une promotion sociale, parce que, en principe, c'est mal vu, hein, la fortune. L'Église et la Rome. C'est resté vrai pendant très longtemps, y compris même jusqu'au XIXe siècle. Hein. Bon. Mais au Moyen-Âge, c'est tout à fait typique. Alors voilà, ce garçon, qui était probablement très intelligent, a été remarqué à l'école de Sully sur Loire, hein. Il a été remarqué par les moines et de là envoyé à Paris pour poursuivre ses études. Et là, il apprend la théologie dans le Paris de la première moitié du XIIe siècle. C'est là qu'il rencontre le futur roi Louis VII, qui ne devait d'ailleurs pas a priori devenir roi, mais qui est devenu parce que son frère s'est fait tuer par un cochon, vous savez. Donc, les frères aînés, Philippe. Et ça lui a bien mal appris de rencontrer Louis VII, puisque c'est le roi lui-même qui aurait influencé les chanoines quand Pierre Lombard est mort en 159, après un épiscopat d'un an seulement, malheureusement. Pierre Lombard était quelqu'un théologien et un canoniste très élevé, hein. Auteur du livre des Sentences, il est mort très, très, très rapidement. Alors là, évidemment, qui va-t-on nommer comme évêque ? Alors ils avaient le choix entre Pierre le Mangeur, qui était un grand théologien, et puis, effectivement, Maurice de Sully, plutôt administrateur, gérant le temporel. Et le roi aurait dit : vous gardez comme évêque, vous prenez comme évêque le meilleur administrateur, et vous renvoyez l'intellectuel, on va dire, à l'école cathédrale pour former les clercs. Voilà. Donc, ça, c'est les gens qui disent cela, rapportés quand même par les exemples-là, hein, sur Maurice de Sully. Alors, il ne faudrait pas que vous gardiez dans l'esprit, c'était un simple administrateur. En travaillant sur ces sujets, j'ai quand même regardé qui il était de près. Il a écrit des manuels, et en particulier des recueils de sermons destinés à quoi ? À la formation du clergé. Donc, et on en a quand même gardé une centaine, qui ont été des best-sellers, traduits dans toutes les langues, hein, très rapidement, et qui avaient pour but de former le clergé. Gardez bien cela en tête. Pour lui, la cathédrale, c'est aussi un lieu qui doit permettre de former le clergé. Hein, ça n'est pas seulement un administrateur. Et il a aussi le goût de la prédication. Mais il impose ses vues pour une cathédrale grandiose, contre l'avis d'ailleurs de certains chanoines, comme Pierre Le Chantre qui disait, alors lui il s'occupait beaucoup des écoles, et Pierre Le Chantre était un esprit un peu, rebelle, et il disait, mais Dieu n'a pas besoin de voûte aussi haute. Hein. Le diable ne peut pas s'y engager, il faut faire autrement, n'est-ce pas, il faut rester petit comme le Christ a été petit. Vous voyez ? Mais lui, il veut une cathédrale entièrement au goût du jour, c'est-à-dire de style gothique. Qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale gothique ? Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Vous donner une définition, c'est pas facile. En fait, c'est pas, contrairement à ce qu'on a toujours appris par cœur, la ville d'ogive, c'est pas l'ogive, même si quand même. Hein, ça donne quand même une petite idée. C'est plutôt la voûte sextpartite, comme vous l'avez ici, hein, représentée dans le plafond, qui fait la cathédrale. Parce que ça permet effectivement un toit très haut, hein, et aussi l'entrée de la lumière, sur laquelle je reviendrai, bien entendu, qui est marquée ici, c'est la vue du transept sud, hein, donc du côté de l'évêque. C'est très difficile. C'est très difficile en effet de photographier le transept, la rose du transept nord. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'orgue, hein, qui était quand même qui empêche de photographier. Donc c'est la voûte sextpartite, les arcs-boutants secondaires, hein, contrairement à ce qu'on pense. Alors voilà quelques dates repères de la construction. Début des travaux. Le chœur est achevé, le légat cardinal Henri d'Albano consacre le chœur en 1182, ce qui est la partie la plus sacrée, bien sûr. Puis, vous avez vers 1220 l'installation de la galerie des rois, hein, sur la façade. Vers 1225, de nouvelles transformations avec des fenêtres hautes, la suppression des combles, la mise en place de l'arc-boutant que vous avez vu tout à l'heure pour les fenêtres hautes, vous l'avez vu dans la photo précédente. Puis, seulement après la création de chapelles latérales, hein, tout ça ne s'est pas fait en même temps. Hein, après. Puis, vers 1240, un allongement des transepts, sur lesquels je reviendrai, la rosace du portail nord, qui est la plus ancienne, l'achèvement du transept sud par Pierre de Montreuil, vous avez quelques noms là, hein, vous voyez, Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, puis après Pierre de Chelles, Jean de Ravie, et la clôture du cœur par Jean de Ravie. Je vais revenir là-dessus, rassurez-vous, vous n'allez pas vous mettre toutes ces dates dans la tête. Hein. Alors, en même temps, l'évêque décide de prolonger la façade future par une nouvelle rue, la rue Neuve Notre-Dame, dont il fait abattre des maisons. Cette rue a 6 mètres de large, ce qui est énorme, à l'époque médiévale, et elle facilite effectivement la circulation. Et cette rue relie la cathédrale au palais royal, qui est sur, vous l'avez vu tout à l'heure, la partie occidentale de l'île de la Cité. Donc le légat du pape, 1182, consacre solennellement le cœur. Comment a-t-elle été construite ? On commence par le cœur. On commence par le cœur, qui donc est dans cet état à peu près vers 1170, puis on continue en clôturant, si j'ose dire, pas en clôturant, en fermant le cœur, continuer les travaux. Le cœur est achevé, il est isolé par une cloison. Et on continue, cette fois-ci, la messe, bien entendu, avec le transept. La base des tours est amorcée, on est en 1208. Puis, étape suivante, le gros œuvre est achevé, sauf le haut des tours, vers 1220. Suivante. Voilà. Et on en arrive à ce que vous connaissez, c'est-à-dire les trois portails. Au milieu, le portail du jugement dernier. À droite, donc au sud, le portail Satan. Et à gauche, le portail de la Vierge. Alors, on a donc, si vous voulez, vers 1220, une cathédrale qui ressemble un peu à celle qu'on a connue, hein, voilà, que nous connaissons. Sur la façade, on a cette galerie des rois, hein, qui est en place, mais on ne connaît pas, au moins jusque vers 1220, le nom des architectes. Ils sont restés anonymes. Et on ne connaît, on n'a pas malheureusement de cahiers, comme on a ceux de Villard de Montbourg, au XIIIe siècle, on ne sait rien. On sait rien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de plan. Les plans pouvaient être faits au sol, hein, et que le gothique s'est développé comme ça, de façon tout à fait, comment dire, un peu irrationnelle. Pas du tout. Hein. Au contraire, on a utilisé des figures géométriques qui tracés sur le sol et qui font que la cathédrale a été soigneusement programmée. Alors, au total, le plan de la cathédrale montre, alors ça c'est un plan qui est tiré de Viollet-le-Duc, hein, de son livre sur le dictionnaire raisonné de l'architecture, et là on a une cathédrale qui à peu près a un total de longueur de 128 mètres, une largeur au transept de 14 mètres, une hauteur sous voûte de 33 mètres, des rosaces qui font à peu près 13 mètres de diamètre, une superficie totale de 4800 mètres carrés, soit 11 terrains de basket-ball. Voilà, comme comparaison. Un peu osé. Hein, ouais. Mais cette cathédrale aurait été soumise, j'ai bien dit, aurait été soumise à des transformations dès 1230. C'est ce que j'ai enseigné, c'est ce que j'ai écrit, déjà, autrefois. Et on n'en est plus sûr du tout. Elle aurait été soumise à des transformations en ce sens que les successeurs de Maurice de Sully auraient jugé que la cathédrale était insuffisante, en particulier les transepts, est trop sombre. Elle s'élevait alors sur 4 niveaux, avec 3 niveaux seulement d'éclairage. Arcade du rez-de-chaussée, tribune, fenêtre haute. Les combles rendaient aveugles les oculis, c'est-à-dire les ouvertures rondes, qui était en hauteur, sur cette petite rosace du troisième niveau. D'ailleurs, Viollet-le-Duc a essayé de refaire cela. Et on voit encore hein, des traces sur la transept nord en particulier, sur le sud aussi. De nouveaux travaux sont donc engagés. Vous vous rendez compte? De nouveaux travaux sont donc engagés à partir de 1220-1230. La toiture aurait été surélevée de plus de 12 mètres, si bien que la première charpente du XIIe siècle aurait été déposée, puis remontée, et nouvelle prouesse technique, l'eau de pluie se serait écoulée par des chaînons, alors ça c'est sûr, dans cette deuxième version de la cathédrale. Voilà, charpente. C'est assez impressionnant. Pas de l'avoir brûlé, mais de l'avoir visité. Donc, cette charpente, moi je me suis toujours posé cette question. Comment est-ce qu'on a pu déposer cette charpente et la remettre 12 mètres plus haut sans rien bouger et changer. C'était un choix d'interrogation dans ma tête, mais moi je ne suis pas archéologue. Actuellement, effectivement, cette chronologie est revue. Et dans le deuxième chapitre de ce livre, justement, Maxime L'Héritier, qui est un grand spécialiste, lit alors du fer à l'intérieur des colonnes, du fer employé par la construction. Donc, un spécialiste de la construction. Émet l'hypothèse qu'il faudra peut-être modifier la chronologie et que finalement, il n'y a pas eu deux épisodes, mais une modification en cours de route. On s'est aperçu en cours de route, effectivement, que l'élévation allait donner des choses qui n'étaient pas très lumineuses. Par ailleurs, il y a des progrès qui sont faits techniquement, et du coup, on envisage, à partir des années 1220-1230, sous l'égide justement de Jean de Chênes, dont je vous ai parlé, et là on connaît le nom de l'architecte, de faire une élévation plus osée, plus ouverte, hein, en particulier grâce à ces fenêtres que vous, dont vous avez vu tout à l'heure la luminosité. Donc construction qui serait plutôt continue, avec des modifications en cours de route, ce qui veut dire qu'on n'a pas couvert tout de suite l'ensemble de la cathédrale. Vous comprenez ? Alors on est bloqué, parce qu'on sait que Maurice de Sully a donné une somme très importante pour acheter du plomb pour couvrir la cathédrale. Il meurt, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1196. Donc on était bloqué par ça et on se disait, ça y est, au moins le cœur, la partie du cœur, a été couverte. Mais c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr et par conséquent, on a peut-être transformé en allant cette cathédrale pour la rendre plus lumineuse. Construction continue. On a aussi agrandi à mesure les transepts et on les a décorés. Les transepts deviennent monumentaux et ornés de grandes rosaces. Là, on est presque au milieu vers les années 1230-1240. Et voilà la rosace du transept sud que vous ne voyez jamais, ou presque, parce que c'est le domaine de l'évêché. Alors j'espère que ça changera. Parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Alors, cette rosace sur le tronc. Alors, la plus ancienne rosace, c'est du côté nord, je vous l'ai dit, qui fait 12 mètres de diamètre. Celle-ci est un petit peu plus grande. Et en même temps, il se charge de la porte nord, sur le Jean de Chelles, de la porte nord dite des chanoines, où figure encore une statue de la Vierge à l'enfant. Donc, voilà. Et ça, vous ne l'avez pratiquement jamais vu, tous ceux qui sont parisiens. Je suis persuadée que vous n'êtes jamais allé sur le côté nord. Mais non. On voit la façade. On se dit que zut, on ne peut pas aller dans le jardin des méchés, et on part. La partie la plus belle, c'est ça, et la porte rouge, dont on verra tout à l'heure. Ça, c'est du Moyen-Âge, c'est sûr. Ça n'a pas été touché. On a piqué l'enfant Jésus dans les bras de sa mère, hein, ça a été volé, et vous voyez dans quel état c'est, au moment de la fête. Quand j'ai fait mon livre sur Notre-Dame en 2004, c'est un livre d'art, il y avait un photographe, travaillait avec un photographe de métier, Leiter, qui a une opinion sur rue. Je lui ai dit, je veux que vous alliez me photographier la partie nord. Il m'a dit, mais il est revenu. Mais c'est pas possible, c'est plein de crottes de pigeons. Alors il l'a fait quand même, bien sûr. Mais on voit bien que c'est ça. On voit bien qu'il y a là, vous voyez, matière à travail. Et celle-ci n'est pas encore restaurée. On va voir encore les chanoines tout à l'heure, elle est en partie restaurée. Mais on pouvait y accéder sans que les grilles soient devant. On pouvait y faire des graffitis. On pouvait faire tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on voulait, sur cette partie-là où personne ne va. Alors peut-être que l'incendie va faire en sorte, et ça c'est la bonne nouvelle, que justement, les voitures soient interdites dans cette partie de l'île de la Cité. Mais bon, on peut toujours attendons d'être après 2004. Alors, donc, on a là, ici, le portrait des chanoines, qui est donc l'œuvre de Jean de Chelles et de Pierre de Montreuil, qui reprend la construction du transept sud aussi, et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, Pierre de Chelles et Jean Ravel. Donc voilà les grosses étapes, les problèmes que ça pose, vous voyez, qui n'ont rien été résolus vraiment. Hein. Il y a quand même des problèmes de logique, hein. Défaire cette charpente, la remonter à l'identique. Ça, je suis quand même inquiète du possible. Enfin bon, les hommes du Moyen-Âge, vous savez, ils avaient une force extraordinaire, donc voilà. Alors, maintenant, on va s'interroger, comment cette construction a-t-elle été possible? Vous vous rendez compte de ce qu'elle représente comme quantité de travail et par conséquent comme argent. Alors là, pour ça, il faut revenir à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle. D'abord, à cette époque, il existe une forte concurrence monumentale. J'ai bien dit qu'il n'y avait qu'un évêque à Paris. Paris n'est qu'un évêché jusqu'en 1622. Donc un évêché dépend d'un archevêché. C'est l'archevêché de Sens. Or, à Sens, on a déjà expérimenté un peu de gothique. Pas entièrement. C'est pour ça que lui, il veut tout gothique. Vous comprenez ? Il y a une concurrence monumentale sous la forme de ces voûtes de 13 parties dont je parlais tout à l'heure. Même à Paris, ouais, à proximité de la Saint-Martin-des-Champs, dans le prieuré clunisien, on a expérimenté dans le déambulatoire ces fameuses voûtes de 16 parties qui sont très basses, qui sont du gothique balbutiant, extrêmement émouvant d'ailleurs, mais on commence à imaginer le gothique. Et la basilique de Saint-Denis, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, a été rénovée par l'abbé Sugère 20 ans auparavant. Or, Saint-Denis est la grande rivale de Notre-Dame. Donc, il y a une forte concurrence entre ces prêts-là. Tous ces édifices, donc, dont j'ai parlé, conservent des traces de l'art roman. Et ce que Maurice de Sully a voulu faire, c'est exclusivement du gothique. Sauf le réemploi de Sainte-Anne. Mais on peut l'expliquer. Et du coup, Notre-Dame reste jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, le plus grand vaisseau de la chrétienté occidentale, avec sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Qu'est-ce qui permet aussi la construction? Évidemment, l'argent. L'argent et par conséquent la prospérité et la richesse de l'évêque et du chapitre, c'est-à-dire des chanoines. L'évêque et le chapitre sont en effet les maîtres d'œuvre de la cathédrale. Ils ont les moyens de cette politique monumentale parce qu'ils ont effectivement la richesse qui va avec. Les biens fonciers et les droits seigneuriaux sont énormes. Et là, aussi paradoxal que ça puisse nous paraître, on en est là aussi au balbutiement des études sur le temporel de Notre-Dame. Il y a une publication du cartulaire, je devrais dire dans les cartulaires, elle est particulièrement critique, mais on sait quand même que l'évêque possède beaucoup de biens dans Paris même et ou sur la rive droite de la Seine. Par conséquent, dans la partie marchande, dans la partie artisanale. Car Paris n'est pas seulement une capitale politique, contrairement à ce que vous pouvez avoir dans la tête, sans doute. C'est d'abord une capitale industrielle. Et ça, ce sont les derniers travaux de Boris Bob, avec qui j'ai dirigé ce livre, qui le démontrent. Il y a de l'industrie à Paris, jusqu'au XIIe siècle, qui fait de Paris au XIIe siècle, une capitale économique, avant même ou en même temps qu'elle devient une capitale politique sous Philippe Auguste. À partir de là, richesse, richesses sur le grand pont, les chanoines ont une table de changeur sur le grand pont, hein, au début du XIIIe siècle, et ils pratiquent l'usure. Mais surtout, l'évêque et les chanoines ont de nombreuses possessions en Île-de-France. En Île-de-France, qui est au cœur de la reprise économique et de la reprise agricole, suite au grand défrichement et à la hausse de la population. Donc, une prospérité qui est en une expansion, céréales, vin. L'Île-de-France est le premier domaine viticole du royaume, hein, premier domaine viticole en superficie, je ne vais pas dire en qualité, hein, en superficie. Oui, mais bon, de toute façon, on aime le vin à elle, hein, au Moyen-Âge. Hein, donc, céréales, vin, produits d'élevage et les forêts, qui sont effectivement indispensables à l'économie. Donc, hausse des revenus seigneuriaux. Et le chapitre, comme l'évêque, bénéficie en tant que seigneur de cette hausse des revenus seigneuriaux. Paris même, alors. Donc, on a une densité de la population parisienne, et vous voyez là, sur cette carte, qui est aussi un scoop, hein, d'une certaine façon, parce qu'elle est justement l'œuvre, dans cette fois-ci, de Caroline Bourlet. Ce n'est pas été indiqué, mais ça devrait peut-être le faire. Mais je me dis deux fois, vraiment. C'est pas moi, hein. Regardez la densité de population sur la rive droite. C'est là que l'évêque possède l'essentiel des biens et les chanoines aussi. D'ailleurs, au point tel que le roi est obligé de lui imposer une sorte de contrat pour partager les bénéfices aux halles, hein, qui sont situées là. C'est ce qu'on appelle la Philippine en 1123. Alors voilà, l'essentiel vient de là. L'essentiel vient de là. Mais il ne faut quand même pas négliger les aumônes. Alors les aumônes, on ne sait rien, parce qu'on n'a pas de livre de compte. On n'a pas conservé de livre de compte. Tout ce qu'on sait, c'est que certaines aumônes ont posé problème. Peut-on accepter l'aumône d'un usurier? Peut-on accepter l'aumône d'une prostituée? Ça vous paraît des questions secondaires, ça n'est pas du tout. Et il y a un usurier, Thibault le Riche, qui voulait donner de l'argent à Maurice de Sully. Maurice de Sully était prêt à flancher. Mais Pierre le Chantre veillait. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il a ? Il a été obligé de faire ? Il a été obligé d'exiger que Thibault le Riche fasse son mea culpa, en quelque sorte, publiquement, en rendant les biens mal acquis, et circule dans Paris, hein, pour montrer, hein, c'est une sorte d'amende honorable, en quelque sorte, hein, qu'il a pu faire, et annoncer par cri dans toute la ville, qu'il entendait faire restitution des biens injustement perçus sur les particuliers, avant de léguer le reste de la somme pour la construction de la cathédrale. Au prix de son salut, bien entendu. Peu de traces en revanche de dons royaux, peu. Cela ne signifie pas, j'y reviendrai, que le souverain reste indifférent à la construction de la cathédrale. Mais il fait même enterrer plusieurs membres de sa famille. Philippe Auguste fait enterrer là sa première femme, qui est Isabelle de Hainaut, qui est morte en couche. Et elle est enterrée dans la cathédrale. Mais, quand il y a des entrées royales dans la ville, les souverains ne manquent pas d'aller se rendre à Notre-Dame pour, effectivement, y écouter la messe et faire des dons. Bon. La meilleure façon, en fait, d'aider la cathédrale, pour les rois, ça a été de leur donner, à la cathédrale des reliques. Et j'insiste sur un don de reliques en 1217, fait par Philippe Auguste, qui a été un don très important, qui a quelque sorte fait démarrer, si vous voulez, la dévotion à Notre-Dame de Paris. Il a donné des cheveux de la Vierge, des dents de Saint-Jean-Baptiste, des pierres de la lapidation de Saint-Étienne, ça c'est très important, Notre-Dame. Hein ? Vous avez vu le portail Saint-Étienne tout à l'heure, hein, portail sud. Et aussi, la partie la plus haute du crâne du martyr Saint-Denis, qui aurait été décaloté avant d'être décapité. Ça, c'est fondamental. Ça a été, je viens de vous, là aussi, ce sont des dons de reliques, hein, qui nous paraissent, nous, tout à fait désuets, mais qui font la richesse et l'honneur, hein, de la cathédrale. Alors, l'importance de la population parisienne, évidemment, est un facteur, est une autre raison. Pourquoi ? Parce que, et pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons spirituelles. Hein, les besoins religieux de la ville se sont développés. Alors on en est aujourd'hui, là encore, à réévaluer la population parisienne. On a, pour 1328, une sorte de recension, et puis on a, au début du 14e, enfin fin du 13e, au début du 14e siècle, des registres d'impôts. À partir de là, justement, Caroline Mouret a réévalué la population, et on en arrive entre 250 000 et 280 000 habitants. Ça vous paraît de très fort. Rien, c'est énorme pour le Moyen Âge. Donc c'est une réévaluation à la hausse encore dans les derniers travaux qui ont pu être menés. Pour vous donner des comparaisons, Florence, 100 000 habitants. Vous voyez ? Bon. Donc c'est la plus grosse agglomération d'Europe. Alors évidemment, à côté de Constantinople, enfin de Byzance, c'est pas grand-chose, peut-être. Hein, c'est certainement 5 fois moins. Mais c'est quand même, pour l'Occident, une très grande ville, la très grande ville. Donc des besoins énormes en religion, et par ailleurs, une population qui peut servir de main-d'œuvre. Et une main-d'œuvre active, bien formée. C'est la prochaine ? Non ? Voilà. Mais ça met du temps, alors je ne suis pas habituée. Alors je vous ai pris celle-ci parce que justement dans son livre, Martine Vérité l'apprend, et elle est, je la trouve très belle. Et vous avez là, regardez tous les instruments de la construction. Hein. Vous avez au départ la constitution du mortier, voilà, le mortier, qu'on met dans un panier. Le panier est transporté, tout est transporté à la main, bien évidemment, mais on a quand même une échelle, vous voyez, et puis on a des truelles qui sont dentées, d'ailleurs, qui sont très adaptées à la construction. Alors, vous me direz, là on voit, il y a un riche personnage qui vient voir, ça c'est toujours en étant lumineux, hein, je suis pas sûr que le roi se soit beaucoup déplacé pour aller voir la construction de Notre-Dame, enfin ça, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Et vous avez le maître d'œuvre, là, en rouge, hein, qui montre le travail qui est en train de se faire. Et alors, où est-ce qu'on trouve cette population, ces ouvriers ? Eh bien, on les trouve, alors, on vous va vous raconter, hein, surtout avec les histoires sur la franc-maçonnerie, etc. Bon, que ce sont des gens qui ont des secrets, etc. Je ne crois pas trop, hein. Bon. Parce qu'on a quand même, pour le coup, pour le XIIIe siècle, on a des bulletins de salaire, mais oui, des embauches. Hein, qui se font place de grève, hein, donc la place de l'hôtel de ville actuelle, et là, on a à la semaine, hein, ou à la journée même, des gens qui se proposent, qui proposent leurs services moyennant finance, avec des contrats, hein, tout simplement. Bon. Donc les ouvriers sont au travail, et donc on utilise, vous voyez que c'est quand même rudimentaire comme instrument, on utilise des plans inclinés, etc. Mais la brouette, par exemple, vous n'avez pas présenté là-dessus. Il y a très peu de représentations de brouettes. On sait que ça existe, mais elle est très rare avant la fin du Moyen Âge. Alors, on a enfin un troisième élément qui permet, ou un quatrième élément qui permet aussi d'expliquer, c'est le bouillonnement intellectuel de Paris à cette époque, et le prestige en particulier de l'école cathédrale, c'est-à-dire l'école attachée à la cathédrale, qui a remplacé les écoles monastiques parisiennes, qui étaient importantes. Donc, c'est de nombreux théologiens prestigieux qui sont illustrés, aussi les canonistes, je vais vous en citer quelques-uns. Abélard, bien sûr, Hugues de Champeaux, Hugues de Saint-Victor, et on y développe quoi ? la dialectique, qui est la base de notre raisonnement actuel encore, hein, le si et non, c'est le oui et le non, et puis on fait la synthèse. Voilà. Hein, c'est le béaba de la réflexion rationnelle, hein, de, en, occidentale et française. Hein. Alors, on a aussi d'éminents canonistes, je vous ai cité Pierre Lombard tout à l'heure, qui contribuent largement à définir la Trinité, la création, l'incarnation, la rédemption, et toutes les normes qui doivent réguler la vie des chrétiens. Donc, c'est pour illustrer, si vous voulez, le secteur de pointe qu'est Paris au moment où Maurice de Sully décide de faire construire. Alors, vous voyez bien que la situation aussi de la cathédrale dans la pointe orientale de l'île permet d'évacuer facilement les détritus, permet au contraire d'accueillir avec les ports les matières premières qui ne viennent pas de loin. La pierre vient des carrières parisiennes de l'île gauche, hein, et les bois viennent d'Île-de-France. Comme je l'ai dit, quand la cathédrale a brûlé, si vous voulez retrouver le bois de la charpente, eh bien vous prenez le cartulaire et vous cherchez où étaient les bois. Et vous allez les trouver. Voilà. C'est comme ça que Maurice de Sully a certainement fait. Il n'est pas allé chercher des bois chez Suger, son rival. Hein. Il a pris, dans les forêts qui étaient suffisamment nombreuses et importantes en Île-de-France. Alors, vous savez que ces bois ont été transportés par flottement et qu'ils ont été garnis à la Deloire, et c'est ce qui est en train de se faire, hein, pour refaire la charpente de la cathédrale. On a pris des bois de chêne relativement récents, pas trop vieux, on ne les laisse pas sécher, on les écarie à la Deloire, c'est-à-dire pas de scie, ils sécheront sur place de façon vivante. C'est comme ça qu'on fait au départ. Et ça, c'est un des enseignements. Alors là, vous voyez, là, c'est un petit aparté. Vous voyez, parfois, on critique le CNRS. On dit, il y a des chercheurs, on les paye à quoi faire. Hein? Bon, c'est vous qui payez les impôts, tous ces gens-là, c'est certain. Oui, mais là, on a sorti les chercheurs du tiroir. Et on est bien content d'avoir trouvé des gens qui sont spécialistes, mais aigus, de la charpente. Les charpentes médiévales. Et ce sont eux qui sont en train de dire comment il faut faire. Parce qu'ils connaissent parfaitement les tenants et les aboutissants. Et vous voyez, quand la cathédrale a brûlé, la ville de Prague m'a appelé pour me demander une conférence sur Notre-Dame. Je l'ai presque allé à chaud. Il y avait dans la salle des chercheurs, pradois, qui m'ont dit, mais nous, on connaît ceux qui ont travaillé sur les charpentes à Paris. On est prêts aussi à venir les aider. Parce que la cathédrale Saint-Étienne de Prague, c'est quelque chose. Donc, ils ont aussi, dans leur tiroir, quelques chercheurs qui sont enfermés et qui sortiront au bon moment, espérons qu'ils n'en auront pas besoin. Donc, un financement qui n'a posé aucune difficulté, finalement, pas de difficulté insurmontable. J'exagère en disant aucune difficulté. Il a fallu certainement réclamer de l'argent. Peut-être qu'il a eu d'ailleurs détourné dans le diocèse. Parce que souvent, les cathédrales sont financées de cette façon. On fait une tournée, hein, on transporte des reliques, et puis les gens donnent de l'argent sur place. On n'a aucun témoignage, mais on en a pour d'autres cathédrales. Donc pourquoi pas? Mais on n'a pas de preuves, si vous voulez. Hein. Voilà. Enfin, je ne pense pas beaucoup en disant que ça a été possible. Parce que ils sont quand même très bien organisés, les chanoines de Paris, je peux vous dire. Vraiment. Hein. Alors revenons maintenant, si vous voulez, ce que nous enseigne cette cathédrale et quels sont ses messages. Alors. Un message politique au sens large. Devenir la cathédrale du royaume, c'est l'ambition, certainement, qui s'est développée au fur et à mesure du Moyen-Âge à Notre-Dame. Et comme je le répète, ça n'est pas évident, hein, puisque c'était qu'un évêché, pas un archevêché. Il y avait là 51 chanoines. Ça nous paraît peut-être beaucoup, c'est pas un chapitre formidable. À Reims, il y en a 72. À Lyon, il y en a 82 en 96. Donc, c'est un chapitre moyen, si vous voulez, grand moyen, mais prestigieux. Et c'est ça qu'il faut avoir à la tête. Passer par le canonicat de Notre-Dame, c'est jouer du prestige. Il faut donc affirmer le pouvoir de ces prêts-là, et ils l'affirment, parce qu'ils ont fait de cette cathédrale d'abord une église pour les clercs. Et là, on le voit très bien avec, on va aller un petit peu plus vite peut-être, le plan de la cathédrale, hein, qui est ici. C'est une église pour les clercs, parce que, il faut peut-être continuer là. Voilà. Parce que très vite, le cœur de la cathédrale que vous avez vu dans le plan précédent est fermé par un jus, prolongé par une clôture. Très vite, j'entends par là, fin 13e, début 14e siècle. Pierre Michel, Jean Ravi, et puis jusqu'à Raymond du Temple, au 14e siècle, ont participé à cette clôture. Que vous n'avez peut-être pas regardé quand vous êtes allé à Notre-Dame. Si vous y retournez, quand elle sera ouverte, la clôture, c'est une petite merveille, même si elle a été restaurée par Delevingne, un peu trop à mouvement, mais bon. Alors, d'abord, on ferme le cœur par un jubé. Là, vous avez... Ce jubé, on ne sait pas comment il était à l'époque médiévale. On ne sait pas pourquoi. Parce que, ce que vous voyez là, c'est un jubé de la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire recouvert de plaques, ici vous le voyez, avec des statues qui sont du XVIIe. D'accord ? Pour enfermer et cacher le jubé médiéval, ou tout au moins ce qu'il en restait, parce qu'il est possible qu'il ait été en partie détruit, ou abîmé en tout cas, par les guerres de religion. Mais c'est pas sûr. En tout cas, il est revenu au bout du jour au XVIIe siècle. On en a gardé quand même quelques traces. Et c'est la statue suivante. Voilà. Alors ça, c'est pour moi une merveille absolue. Ah, c'est une merveille absolue. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Ça représente quoi ? Ça représente Adam et Ève sortant des enfers à la demande de Jésus. C'est un thème très fréquent sur les jubés médiévaux qui vous montre quoi ? Ce que je vais vous démontrer par la presse de l'exposé, j'espère, c'est que l'homme n'est jamais exclu du salut. C'est saint Augustin. C'est le IIIe siècle. Le christianisme du IIIe siècle. Jusqu'au bout, l'homme peut se racheter. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus entre le moment où il est dans le tombeau et le moment où il ressuscite? Grande question. Où était-il? Dans le tombeau? La réponse est non. Les évangiles apocryphes, beaucoup plus importants finalement au bout du compte, dans cette histoire-là en tout cas, que l'évangile, j'allais dire orthodoxe, traditionnel, qui n'en parle pas. L'évangile de Nicodème raconte l'arrivée de Jésus aux enfers. Et il a sorti à l'homme. Pendant que la baisse, mais ça prend du temps à le lire, mais enfin, si vous voulez rester un livre de plus, c'est pas grave. Pendant que la baisse entretenait ainsi avec Satan, le roi de gloire étendit sa main droite, saisit l'ancêtre Adam et le releva. Ensuite, il se tourna aussi vers les autres et dit, venez avec moi, vous tous, qui à cause du poids que celui a touché est mort, car voici au contraire, je vous relève tous par le poids de la croix. Là-dessus, il fit sortir tout le monde. Et l'on vit l'ancêtre Adam, tout rempli de joie. Je rends grâce à ma grandeur, Seigneur, dit-il, parce que tu m'as fait remonter du plus profond de la tête. De même, tous les prophètes et les saints disent aussi, nous te rendons grâce, Christ, le Sauveur du monde, parce que tu as fait remonter notre vie hors de la corruption. Les évangiles apocryphes, c'est magnifique. Le style, vous voyez comment il vous entend. Hein? Alors, vous avez donc un extrait, à travers ces statues, de ce que pouvait être ce jubé, qui est finalement un message d'espérance. mais en même temps, il enferme les chanoines de la nef. Il les exclut des croyants. C'est une église pour les clercs, hein, je répète. Alors, la clôture prolonge ce jubilé. Voilà la clôture. La clôture du cœur, on ne voit pas très bien parce que ce sont des photos très compliquées à prendre. Hein. Voilà, la clôture, donc, côté nord, qui raconte la vie de Jésus. Hein. Puis, suivante, un détail avec la visitation. Voilà ce que c'est là. Alors ça, on est fin 13e, début 14e. Fin 13e, pour la partie nord, qui est la plus ancienne et la plus archaïque. Le massacre des innocents, vous savez, c'est un sacré message politique, le massacre des innocents. Qu'est-ce que c'est qu'Hérode? C'est le tyran, par excellence. Aucun roi ne doit devenir ce qu'a été Hérode. Surtout pas un tyran. Continuons. Et puis alors, le côté sud, plus tardif, avec un gothique qui est déjà, vous voyez, un peu plus maniéré, mais qui est magnifique, avec une olive exagérée, hein, ne me touche pas, hein, qui est une des scènes les plus belles de la clôture. Mais vous voyez bien, tout le monde passe devant, personne ne voit. Hein. Et pourtant, c'est visible à l'œil nu, si j'ose dire, parce que ça, c'est gros. Et ça a été refait, donc, remis au propre par Jésus. Alors, on répartit les pouvoirs dans la cathédrale. La suivante. Voilà. Alors, ça, c'est du jeu de duc, mais qui est très intelligent. À savoir qu'il vous montre tout à fait comment était la cathédrale médiévale. Voilà ce que vous avez jugé devant, là, hein, avec le Christ le Sauveur, peut-être. En haut, c'était normal, c'est normal. Vous aviez donc Adam et Ève, etc. Vous avez l'espace canonien qui est derrière avec les stars, et puis tout au fond, vous avez l'autel de l'évêque. L'autel de l'évêque, séparé de celui des chanoines, parce qu'ils sont sans cesse en conflit de juridiction. Qui va toucher le prix des bougies? Très cher, facile. Hein? Qui va toucher les aumônes? Où est-ce que le monde a été fait, etc. Donc, heureusement d'ailleurs, hein, donc l'évêque, lui, il officie au maître d'hôtel, qui est tout au fond, dans la partie la plus sacrée, et devant le tombeau de Saint Marcel. Saint Marcel, qui est un des évêques fondateurs, et qu'on voit ici, refait par Deleuc, mais si vous voulez voir l'original, il faut aller au musée de Cluny. Il est très animé. Saint Marcel est quelqu'un qui, dans la légende, a dompté le dragon qui infestait les marais, et en particulier qui avait trouvé refuge dans le cercueil d'une femme adultère. C'est de l'origine fortune artillée. Alors, pour célébrer son office, l'évêque entre dans la cathédrale par le côté sud. Le voilà. Hein, le portail du transept sud, hein, avec le portail de Saint-Étienne, avec le détail. Voilà. Ici, la lapidation, la scène de lapidation, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était très important qu'il y ait des pierres. Hein, voilà. La lapidation de Saint-Étienne. Et puis, il entre, donc vous l'imaginez, hein, il entre par là, il voit tout ça, et Saint-Étienne et son. Saint-Marcel et Saint-Étienne sont ses protecteurs, et il avance dans la croix des neiges et le transept sud que vous avez vu tout à l'heure, voilà, et là, au pied, et on ne sait pas trop où et comment, certainement, nous en discutions encore il n'y a pas longtemps avec la directrice actuelle du musée de Cluny, pour dire enfin bon sang, où ils étaient. Voilà Adam qui reste, et il y avait Ève qui était au pied, peut-être en hauteur, dans l'entrée du transept sud, quand l'évêque a passé. C'est très significatif. C'était à l'intérieur de l'église, caché au sud de l'évêque. Qui est responsable du salut à l'époque médiévale? Qui mène les âmes au salut? C'est ça. Finalement, au bout du compte, vous tous, vous n'êtes pas responsable de grand-chose. C'est l'évêque qui est le maître du salut de ses ouailles. On cache Adam et Ève, et je vous dirai tout à l'heure où notre ami Viollet-le-Duc, les arts plastiques. Vous comprendrez la différence entre le sentiment religieux médiéval et le sentiment religieux du 19e siècle. Donc, continuons. Et si on allait un petit peu plus vite pour ne pas trop vous aider. À côté de l'évêque et chanoine, alors voilà une carte extrêmement. Là aussi, c'est une carte d'Hélène Moivet, de. Vous voyez, Alpage. C'est tout nouveau, ça. C'est ça. Ça a quelques années seulement, et elle travaille encore dessus pour la développer. Donc voilà la partie qui est réservée aux chanoines. Et qui, dans lequel il bénéficie effectivement d'un certain nombre de privilèges. Alors, comment on dit le cloître? Eh bien, par la porte sud, la porte nord, qu'on a vue tout à l'heure, mais ils ont trouvé que ce n'était pas très commode, parce qu'il fallait passer à l'extérieur pour rentrer dans leur enclos. Alors, ils ont fait construire une petite merveille, qui est la porte rouge. Voilà. Alors, ça vient d'être rénové. Cette petite merveille, elle est probablement de Pierre de Montreuil, celui qui a construit la Sainte-Chapelle, vers 1250. Et là, vous avez le couronnement de la Vierge sur lequel je vais revenir, et puis vous avez la vie de Saint-Marcel qui est sur le côté. Hein, et on le voit d'ailleurs en train de dompter le dragon, là, à droite, ici, au-dessus, là. Voilà. Donc ça, c'est la porte rouge, on va directement, ils vont directement. Alors, ces chanoines dominent toute la société. Être un chanoine à Paris, je répète, c'est avoir une prébende qui rapporte, c'est vrai, puisqu'on est riche, mais en même temps, c'est surtout avoir l'oreille du roi, ou l'oreille de l'université, ou les deux. Ils font partie du Conseil royal, ils sont au Parlement, ils sont à la Chambre des comptes, ils sont partout, les chanoines de Paris. C'est un poste extrêmement prestigieux, qui leur vaut de passer leur vie, comme je l'ai écrit, entre l'Église et l'État. Ils passent leur vie entre l'Église et l'État, et servir l'État, pour eux, c'est servir le roi. Avoir une haute idée de la majesté royale et du royaume. Ils ont des carrières rapides, en général. Ce qui n'exclut pas leur formation. Et je voudrais qu'on revienne 30 secondes là-dessus. On y imagine toujours les chanoines comme des gens ignares. C'est totalement faux. Toutes les études qui ont été faites depuis une cinquantaine d'années sur les chanoines, que ce soit à Laon ou ailleurs, je dis à Laon parce que c'est là que ça a été compté pour la première fois par Hélène Moivet, sont des gens qui ont une formation intellectuelle pour pratiquement 80% d'entre eux. Donc, ils sont formés, ils ont. On forme au droit, en général d'ailleurs, mais aussi certains sont théologiens. Les théologiens sont minoritaires à Paris, moins de 16%. Mais leur nombre à Paris est quand même beaucoup plus important que dans d'autres cathédrales, la théologie et leur affaire. À côté de ce pouvoir au sein de l'Église, il y a le pouvoir du roi. Dont le palais royal, comme vous l'avez vu, est relié par cette fameuse rue Neuve, qui est là, voilà, ici. Et les chanoines et l'évêque ont beaucoup à faire pour s'imposer. Ils ont contre eux, on va aller vite, la cathédrale de Reims, où sont sacrés les rois de France. Sauf un. Qui n'a pas laissé beaucoup de bons souvenirs, c'est Henri VI, le roi anglais, qui a été sacré à Notre-Dame le 16 décembre 1431, et qui, vous savez, a été douté en France. Saint-Denis, deuxième rivalité. Saint-Denis, qui conserve tous les oriflammes, tous les régalia, c'est-à-dire les signes de la royauté, le sceptre, la main de justice, et qui conserve aussi l'oriflamme pour partir en guerre. Et la ville de Saint-Louis est une rivale féroce. Elle prétend avoir le corps entier de Saint-Denis. Entier. Or, les autres, à Notre-Dame, prétendent avoir la calotte. En 1410, il y a eu une expédition à Saint-Denis pour dénigrer la toute-puissance de l'abbaye avec des affiches posées sur les colonnes. Les chanoines donc sont allés à Saint-Denis, les moines sont allés jusqu'à Notre-Dame, ont fait violence à l'intérieur de la cathédrale. Ils sont revenus aux mains, n'est-ce pas ? Mais c'est très bien pour nous, parce que j'ai pu étudier le procès, c'est ça qui est formidable. Et le greffier qui a rapporté le procès a mis dans la main, dans la marge, un bras avec l'index tendu pour montrer à quel point ce procès était important à ses yeux. Voilà. Donc, on ne sait pas comment ça s'est terminé, parce que finalement, c'était la guerre civile et c'était la guerre de sur cette affaire. Donc, Saint-Denis, la Sainte-Chapelle, qui a été construite, oui, bien sûr, le reliquaire par excellence, qui conserve à ce moment-là la couronne d'épines et des morceaux de bois, du bois de la croix, les acquisitions de Saint-Louis. Donc, et la couronne d'épines et le reliquaire ont disparu à la Révolution, si bien que le reliquaire actuel, conservé cette fois dans le trésor de la cathédrale, est une œuvre de Viollet le Duc. Alors, c'est très amusant, je ne sais pas si certains ont vu le film d'Arnaud, déjà, sur Notre-Dame de Paris, mais il y a tout un passage qui est complètement plus fort sur le reliquaire. Enfin bon, ne rentrons pas dans les détails. Alors, pourtant, si vous voulez, le roi, je vous l'ai dit, il a pas beaucoup donné, il a donné des reliques, mais il est présent à Notre-Dame. Il est présent à Notre-Dame sur ce fameux tympan de la porte rouge. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est le couronnement de la terre. Et regardez de chaque côté qui se trouve. Le roi et une reine. Donc on peut penser que c'est Marguerite de Provence, à moins que ce soit l'ange de Castille. C'est possible. Et par conséquent, elle s'accompagne. Ils accompagnent, le couple royal accompagne le couronnement de la Vierge. Le couronnement de la Vierge qui est le symbole de l'union du Christ et de son Église. Hein. C'est ça, le couronnement de la Vierge. Ce que ça signifie. Donc on a là la preuve, si vous voulez, que le roi est présent dans cette cathédrale, dans ce détail du tympan. On sait aussi que par un certain nombre d'événements militaires, les rois viennent prier à la cathédrale aussi. Saint-Louis, lorsqu'il part à la croisade, par exemple, en 1270, ils viennent aussi prier après leur victoire. La dévotion royale, donc, se développe, et elle est surtout le fait des rois du XIVe siècle, Charles V, Charles VI, le roi fou, donc il y a plusieurs occasions pour venir prier à la cathédrale, pour sa santé, mais aussi au XVe siècle, quand Charles VII et Louis XI font sonner les cloches lors des victoires, et en particulier après la victoire de Formigny, en 1450, Charles VII fait sonner à toute volée les cloches à Notre-Dame. Donc lié au roi, mais c'est aussi un message religieux, et je voudrais insister là-dessus quand même, je vais être un petit peu plus rapide, je vous promets que je ne vous tiens pas trop longtemps encore. C'est un message d'abord pour les clercs, je vous l'ai dit tout à l'heure, un message pour les clercs, et on enseigne aux clercs. Voilà. Et si on a gardé le portail Saint-Anne, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est toute la vie de la Vierge qui est décrite dans le portail Saint-Anne. Voilà, donc un message pour les clercs et la vie de la Vierge. Pourquoi ? Parce qu'on a une dévotion particulière à la Vierge. À Notre-Dame, l'enfer est peu présent. Et quand il est présent, il est tout de suite racheté. Vous l'avez vu tout à l'heure, avec Adam et Ève. Il est présent. Mais immédiatement, il y a l'idée du rachat. Et là, vous avez là, ici, des représentations de l'enfer. Elles sont où ? Dans les poussues. Très peu présentes, finalement. Ce qui compte, c'est la Vierge. C'est la Vierge et le salut qu'elle peut assurer. Alors, dans sa vie, grâce à sa vie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le portail Saint-Anne, et j'aime beaucoup cette représentation. La rencontre de Joachim et de Saint-Anne à la porte dorée, quand enfin elle est enceinte, quand enfin elle va donner naissance à la lumière. Eh bien, ça, c'est dans aucun, c'est pas dans les évangiles, c'est dans les évangiles apocryphes, et c'est sur la pierre, d'après les évangiles apocryphes. Donc, la Vierge présente comme représentatrice du salut, la suivante, et surtout pour la preuve, la répétition partout. Alors, je prise l'exemple de du portail des chanoines, donc c'est le portail du transept nord, hein, vous êtes bien de ça. C'est le miracle de Théologie. Là aussi, c'est une petite merveille, quand ça va être nettoyé, ça va être super. Qui était Théophile? Théophile, c'était un clerc, du 6e siècle, il n'y a pas de chance. L'évêque lui dit, tu vas me succéder. Et puis, il refuse. Bien mal, il en a pris, parce qu'il y a un évêque qui est nommé, qui le met sur la touche, et il n'a plus aucun pouvoir, ni aucune argent. Alors que fait-il? Eh bien, ça c'est la légende dorée, hein. C'est Jacques de Voragine, c'est très bien qui raconte ça. D'après des récits antérieurs. Il va voir un marchand juif, bien entendu, qui lui dit d'appeler le diable. Vous voyez le marchand juif qui est là derrière? Qui lui dit d'appeler le diable. Le diable vient tout de suite, évidemment. Et il lui dit quoi? Tu vas, je vais te faire riche. C'est ce qui arrive. Voilà, il compte les sous, vous voyez là. Il est riche. Et alors, donc, il distribue des louis d'or. Mais, évidemment, il y a un mort. Donc, il implore la Vierge. Il implore la Vierge, elle vient s'attarder, elle le dispute fort, mais, au bout du compte, elle arrache les contrats qu'il avait passé avec le diable. On est au 13e siècle. À quoi elle écrit? En quoi elle écrit? Et le contrat, il est scellé, vous allez le voir. Donc elle arrache, et finalement, l'évêque, regardez, hein, montre le contrat scellé, c'est magnifique ça, un contrat scellé, qui s'attend au 13e siècle, enseigne à tous les autres clercs ce qu'ils ne font pas faire, et morale de l'histoire, notre Théophile meurt 3 jours plus tard, mais, évidemment, sauvé. Voilà. Donc voilà, ça c'est le thème clé de Notre-Dame de Paris. C'est répété là, c'est répété sur les vitraux, c'est répété à plusieurs endroits dans la cathédrale. Donc c'est une cathédrale de la Rédemption, hein, comme le montre très bien cette épître. Mais c'est une cathédrale aussi en évolution, c'est le dernier point que je voudrais traiter. Alors, en évolution, parce que très vite au 16e siècle, le Moyen-Âge a été considéré comme barbare. Lorsque François Ier entreprend de faire construire un palais à Paris, il le situe à l'emplacement de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville actuelle. Dans quel style? Le style Renaissance. Il fait appel au Bocador, hein, et de l'autre côté de la Seine, face à la cathédrale, c'est un palais baroque, hein, qui promeut donc le style Renaissance. En même temps, la cathédrale est mal entretenue. Ce sont les chanoines qui s'occupe de la fabrique. C'est un des chapitres là aussi du livre qui le démontre très bien. Il n'y avait jamais eu d'études sur la fabrique en synthèse. C'est difficile, vous savez ça, de faire ça. Et Étienne Lamont, qui a fait ce chapitre, a montré très bien que les chanoines avaient phagocyté la fabrique. Ils se sont pas... Finalement, la cathédrale était très mal entendu. La fabrique, c'est l'institution qui gère les revenus de la cathédrale pour entretenir les bâtiments. Ils s'en sont très peu occupés. Et à partir de la fin du XVIIe siècle, ils veulent appliquer le vœu de Louis XIII, qui, n'ayant pas d'héritier, avait promis de vouer la cathédrale à la Vierge en transformant le cœur. Et c'est ce qui a été produit. Donc, et là vous comprenez mieux ce qui se passe actuellement, on a démoli le Juppé, on a ouvert le fond, on a remplacé par des grilles, vous voyez, hein, et puis le sol, qu'est-ce qu'on a fait du Juppé? Qu'est-ce qu'on en a fait? On a rehaussé le sol. Donc le Juppé médiéval, qui était en dessous de cette espèce de plâtre que je vous ai montré tout à l'heure, a été mis par terre, a servi de socle pour réédifier tout ce que vous voyez là, vous voyez, et puis plus loin, le sol qui va, je vais un peu plus en avant. Et qu'est-ce qu'on est en train d'exhumer actuellement? Pour ne pas vous en étonner. Là où la flèche est tombée, ça fait créer un creux, et on a retrouvé dans le soubassement ce qui avait été accumulé, c'est-à-dire le Juppé médiéval. Une partie du Juppé aussi, baroquisé, mais aussi la partie du Juppé médiéval. Donc, on a une première transformation, hein, ce vœu de Louis XIII, qui s'est mis au goût du jour et qui a été achevé finalement seulement à la fin du règne de Louis XIV. Hein. Donc au début du XVIIIe siècle. Par le soufflot, le grand soufflot, dont vous admirez le Panthéon, soufflot n'a pas hésité à tailler dans le portail du jugement dernier, en enlevant ce que vous voyez ici, pour faire passer le dé des processions. Le dé des processions, oui, bien sûr. Puis, fonds d'entretien, la flèche médiévale s'est écroulée. Dès 1786, ce n'est même pas les révolutionnaires. Au contraire, ils ont même nettoyé la flèche, ils l'ont enlevée carrément. Mais il n'y a pas de solution. En 1792. Pendant la Révolution, on a décapité, déboulonné les statues, comme partout, mais surtout là, parce qu'on croyait que ces statues des rois représentaient les rois de France. Et depuis le Moyen-Âge, hein. Regarde ici, il y a Pépin, regarde ici, il y a Charlemagne, disait Emmanuel, pour les touristes médiévaux. Hein. Et ça, je ne l'invente pas, hein. C'est vrai, absolument, il y avait des petits mamelles destinés aux touristes. Hein. Notre-Dame est visitée dès le Moyen-Âge. Et fort heureusement, on a retrouvé ces têtes qui sont maintenant au musée de Cluny, lors d'une fouille, mais tout à fait par hasard, en 1977, dans une banque qui était en train de vouloir faire un parking, et ces têtes avaient été mises de côté. Elles sont maintenant visibles au musée de Cluny, elles ont d'ailleurs des traces de polychromie. Alors, la cathédrale continue à se délabrer, et le sacre de Napoléon, qui vous paraît si fastueux, cache la misère par des tentures. Les murs sont délabrés, de toute façon, il n'y a plus de vitraux, puisque les chanoines du XVIIIe siècle ont préféré mettre du noir, du blanc, pour avoir plus de lumière que ces teintes colorées qui devaient partir dans tous les sens, puisque ça n'avait pas été entretenu. Alors arrive Viollet-le-Duc, le gothique revient à la mode, les romantiques le mettent à la mode, avec quelques dates, Chateaubriand, dès 1802, dans le génie du christianisme, ils vendent des églises gothiques, qui sont comme une forêt bâtie, je cite, où l'orgue et le bronze font naître, je cite, des bruits du vent et du tonnerre. En 1831, c'est le roman de Victor Hugo, voilà, Notre-Dame, qui est un monument de la légende et qui connaît un énorme succès. en 1834, Mérimée, écrivain romantique, devient inspecteur des monuments historiques sur un poste nouvellement créé par Guizot et Thiers, et il est chargé de recenser les bâtiments médiévaux en ruine sur tout le territoire. En 1835, c'est Lacordaire. C'est Lacordaire, le grand Lacordaire, qui prêche pour la première fois à Notre-Dame au temps du carême. C'est la fondation des prédications du carême à Notre-Dame. Lacordaire est un très grand orateur. L'art gothique cesse alors d'être considéré comme un art barbare et Notre-Dame de Paris devient une église universelle. Viollet-le-Duc le dit lui-même et la restauration commence quand il obtient avec la suite la présence en quelque sorte, le contrat, qui va leur permettre à tous les deux, à Jean-Baptiste Lassu et à Eugène de Viollet-le-Duc, donc, de procéder à la restauration. Lassu s'était fait déjà remarquer à la Sainte-Chapelle. Leur projet commence séduit, et lorsque, en 1857, Lassu meurt, Viollet-le-Duc reste seul. Et c'est lui qui, finalement, va imprimer sa marque encore plus. « Restaurer un édifice, écrit-il, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » Voilà, c'est le dictionnaire raisonné. C'est passionnant, hein, vous savez, on s'ennuie pas quand on le. Enfin, pour être ça du début jusqu'à la fin, faut grappiller, il y a des choses très intéressantes. Donc il multiplie les recherches, et il arrive. Il apprécie le rationalisme du gothique, dit-il. Donc il restaure la galerie des rois, telle que vous la connaissez, j'ai bien compris. Le portail Saint-Anne, surtout sur les. Sur les statues de plein-pied, avec son spécialiste, en créant d'ailleurs une sorte de laboratoire, hein, avec toute une équipe, hein, toute une équipe de sculpteurs, et en particulier la Chaux. La question est de savoir s'il est allé trop loin. Et s'il est allé trop loin, voilà, vous avez toutes les statues qui défilent, là, la suite qui se fait. Est-ce qu'il est allé trop loin? Les gens discutaient tout à l'heure, en privé. Mais j'en sais rien. Parce que vous avez là l'exemple type. Dans chapiteau de c'est pas un chapiteau, c'est un trumeau. C'est le trumeau du portail de la Vierge. Qui serait entièrement Viollet-le-Duc, qui aurait inventé le mythe. Point d'interrogation. On ne sait rien. De quoi est-il parti? Qu'est-ce qui avait été détruit? De tout, Lilith est-elle une création de Viollet-le-Duc? Ou bien existait-elle déformée, défigurée, abîmée dans la version médiévale? C'est un point d'interrogation. Boris Borg n'est pas d'accord avec moi là-dessus. On n'en parle pas dans le livre d'ailleurs, parce que c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais quand on fait une conférence, c'est intéressant de voir sur quoi on la chope. Est-ce que c'est vraiment du pur jus, Viollet-le-Duc? Point d'interrogation. La dédicace du monument a finalement lieu, enfin, elle est belle, hein, le 31 mai 1864, et c'est à ce moment-là que, si vous voulez, il restaure les arcs-boutants et la flèche. Alors, les arcs-boutants, justement, c'est très intéressant, les arcs-boutants. Parce que les arcs-boutants, il en a ajouté, mais il en a aussi restauré. Mais il n'avait plus le calcaire d'origine. Donc il a mis le calcaire, il a pris ailleurs, forcément. Mais moi, je ne suis pas scientifique pur. Mais vous savez bien que les pierres ont une résistance différente selon leur origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pierres ont bougé. Et il y a donc 20 ans, quand j'ai écrit ce premier livre sur Notre-Dame, j'avais donc visité la cathédrale de fond en comble. Hein. Je suis monté jusqu'en haut, au pied de la flèche. C'était dans un état épouvantable. On avait mis du grillage pour pas que les pierres tombent. Et le responsable de la cathédrale m'a dit, Madame Novart, si vous pouvez faire quelque chose pour qu'il y ait une souscription sur les arcs boutants. Ils ont tellement joué que dans 10 ans, la cathédrale s'écroule. Et oui, forcément, avec la différence, les différences de résistance des matériaux, c'est sûr. La flèche était dans un bon état, mais c'est vrai que le bord était quand même très abîmé. Alors, parallèlement, il mène d'ailleurs des travaux pour le palais épiscopal, pardon. Hein, et puis, il fait construire un nouvel hôpital, sur lequel je ne peux pas m'étendre parce que c'est tout simplement un exposé à lui tout seul, qui est cette fois-ci situé en bordure de la Seine. Le long de la Seine, le long de l'actuelle archive épiscopale, je ne sais pas. Le bâtiment est archive épiscopale. Voilà, c'est là. Conclure que Notre-Dame est un lieu privilégié, comme l'avaient déjà senti les gens du Moyen-Âge. C'est d'ailleurs là qu'au milieu du XVe siècle, Jean Fouquet, le grand peintre, fait descendre le Saint-Esprit. Dans une des premières représentations que nous ayons, avec le Saint-Esprit qui descend et qui fait fuir le dragon, le diable, évidemment. Et les clercs, toujours au premier plan, vous voyez, assez extraordinaire, ça résume assez bien, je pense, ce que je vais essayer de vous montrer. Mais Notre-Dame, ce n'est pas seulement un édifice religieux. Grâce à Joseph Duc, je crois, qui en a exalté la signification, elle a eu un message religieux incontestablement. Au XIXe siècle, on a construit plus d'églises au XIXe siècle qu'au XIe siècle. Mais, bien sûr. Et où, justement, quel sentiment religieux au milieu du XIXe siècle? Où est-ce qu'il a mis Adam et Ève? Bien, les amis, en haut, au-dessus, en face de la galerie des rois, de la galerie de la Vierge, plus exactement, au-dessus, dominant l'ensemble. Parce que le sentiment religieux du 19e n'est pas celui du 15e siècle. C'est aux fidèles qui voulaient assurer leur salut, et par conséquent, il faut leur montrer, si vous voulez, ce qu'est la foudre originelle, et qu'ils en prennent conscience, et qu'ils s'assurent eux-mêmes leur rédemption. Mais surtout, il a lu, et là c'est les historiens qui parlent, la cathédrale comme un manuscrit médiéval. Qu'est-ce que c'est qu'un manuscrit médiéval? C'est ça, un manuscrit. C'est un texte sacré, la plupart du temps, pour les manuscrits originaux, avec des feuilles qui retiennent... Non, tu peux retourner. Voilà, avec les feuilles qui retiennent les lettres, qui sont comme des serments de vie, vous voyez. Et puis, des figures en marge. Des figures en marge qui sont des figures qui attirent pour le rire, qui peuvent être obscènes, comme celle-ci. Ah, comme celle-ci. Ce lapin qui évoque effectivement l'homosexualité. Et puis, donc, qui vous donne une idée d'un rire, du rire de l'instant. Et à Notre-Dame, c'est exactement ce qui se passe. La suite. C'est assez frappant de voir ce manuscrit médiéval comparé à la stire. Le strige qui est là, que vous connaissez bien, bien sûr. Qui pense et qui est presque comme le bréviaire, le singe du bréviaire de Marie de Savoie, vers 1430, qui se tient pareil, hein, la main, il a la tête dans la main. Alors vous avez à la fois le rire de l'instant, et puis en même temps, avec la flèche qui culmine à 92 mètres de hauteur, une petite envolée vers l'éternité, éventuellement la rédemption, avec Adam et Ève, au-dessus de la galerie de la Vierge. Voilà. Je vous remercie de cette cathédrale que nous avons validée.
C'est un peu long. Excusez-moi, c'était un peu long, mais il y avait beaucoup à dire.
Au XIIe siècle, existait-il un adjectif pour désigner le style de construction de ces cathédrales ?
Le style roman, ni le style gothique. C'est très postérieur.
Oui.
Ouais. Non, c'est...
Mais à l'époque, on ne désignait pas.
Non.
Ne parlons pas de l'art français.
Ah, si, alors là, c'est la cathédrale, la cathédrale gothique, pas celle du. Avant le 12e siècle, pas celle de la cathédrale romane, qui existait, comme je vous l'ai dit. La cathédrale gothique est devenue la représentante de l'art français, c'est-à-dire l'art français, c'est l'art d'Île-de-France, en fait. Attention, c'est pas l'art de la France, c'est l'art d'Île-de-France. Hein? Parce que, effectivement, les cathédrales gothiques se sont surtout développées, effectivement, en Île-de-France, mais pas seulement, vous savez. Mais d'abord en Île-de-France. Donc ça, c'est l'art français, effectivement. Vous avez raison. Et là, c'est un terme qui existe.
Et c'est devenu l'art gothique,
oui, alors,
grâce à nos amis italiens.
Oui, absolument. À partir du XVIe siècle. Et Bazar, enfin un peu avant. Comment, en même temps qu'on a inventé le Moyen Âge.
Deuxième question, y a-t-il une deuxième question? Oui, au fond. Alors, Guy, s'il te plaît, transporte là-bas, j'ai besoin de.
S'il vous plaît, j'aimerais savoir à partir de quand le culte de Notre-Dame s'est développé en France et d'autre part quand le purgatoire a-t-il été imaginé et implanté dans l'église, s'il vous plaît.
Alors, oui, c'est une très bonne question. Le titre de Notre-Dame, c'est dès le XIIIe siècle, puisque on parle de la Vierge comme Notre-Dame. Hein. On parle des miracles de Coucy, et Coucy a écrit les miracles de Notre-Dame. Donc, Notre-Dame, c'est dès le XIIIe siècle. Okay. Bon, par ailleurs, le purgatoire, alors là, c'est une grande question. Jacques Le Goff le fait naître au XIIe siècle, en même temps que, justement, il y a la nécessité de résoudre le problème de l'usure, avec le développement marchand. Et les marchands, effectivement, ne sont jamais tout à fait clean. Hein? Alors, voilà, donc ça serait lié, si vous voulez, à une expansion commerciale du XIIe siècle, au développement des villes, etc. Sa théorie, qu'il a écrite dans un livre tout à fait important, qui s'appelle Le Purgatoire, La naissance du Purgatoire, donc ça vous pouvez vous y référer. Je pense qu'il est publié par Gallimard, je ne suis pas sûr, mais je crois que oui, on ne sait rien, enfin, ça c'est facile à trouver. Et puis, d'autres historiens, on pensait que le purgatoire existait dès le Moyen Âge. Ce qui est tout à fait possible quand on fait une géographie de l'au-delà, à travers justement les évangiles apocryphes ou les écrits de l'Église Sainte. Je ne suis pas suffisamment compétente pour résoudre ce problème qui ne me semble pas en étrange en fait. Car ça n'est pas parce que le purgatoire existe en tant que lieu dans une géographie de l'au-delà qu'il est vulgarisé, et qu'il est assimilé, et qu'il est pris comme une planche de salut pour la rédemption. Il est bien possible qu'il y ait eu un purgatoire, hein, que c'est même à peu près sûr, mais que son essor en tant que croyance est attendu le XIIe siècle pour se développer.
Mais ça change tout, hein, ça change tout, parce que si jamais il n'y a que l'enfer ou le paradis, eh bien, il vaut mieux être présent sur Terre. Alors, non, si le purgatoire existe, bon, mais ça permet de...
Alors, attention, ça n'est pas aussi simple. Vous avez bien vu que, ça n'est quand même pas tout à fait aussi simple. Parce que il y a toujours, de toute façon ça suppose aussi des problèmes sur lesquels je ne peux pas m'étendre, mais qui sont bien plus importants, si vous voulez, à savoir à quel moment a lieu le jugement. Est-ce que c'est tout de suite au moment de la mort, ou bien est-ce que c'est un jugement dernier ? Ça, c'est un problème qui n'a pas été résolu avant. Non, mais en tant que médiéviste, moi je parle. C'est un problème évoqué par les théologiens au XIVe siècle. Hein. Est-ce que, par exemple, si vous mourrez en état de grâce, est-ce que vous avez droit tout de suite à la vision béatifique ? Voilà un grand problème, c'est un grand problème. Le pape Jean XXII a développé cette idée. Et ça n'est pas forcément l'idée de toute l'idée très orthodoxe. Voilà. Donc, vous savez, les histoires de l'au-delà sont très compliquées. Alors, il y a... Donc, ce sont des choses très compliquées sur lesquelles j'ai travaillé, moi, quand j'ai rédigé mon livre sur Condamné à mort.
Oui, c'est vrai, en fait.
Absolument. J'en ai tout un chapitre sur c'est le problème. Est-ce qu'on a un jugement ? Là, moi, je ne parle pas de tout en croyante, ni rien du tout, je ne suis rien, alors, hein, je suis historienne. Hein. Est-ce qu'on a un jugement tout de suite après la mort ? Ou bien est-ce qu'il faut attendre, effectivement, le jugement dernier ? Est-ce qu'on peut voir Dieu tout de suite, avec la vision béatifique ? Ou bien est-ce qu'il faut attendre, effectivement, la fin des temps ? Voilà. Donc, on a. Et où vont les âmes en attendant ? Tout ça, c'est compliqué. Alors, attention, vous voyez. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je n'ai pas dit parce que je n'ai pas le temps de tout dire. Adam et Ève, sortis du paradis, de l'enfer, pour être conduits justement au paradis par le Christ. Les historiens, encore historiens de l'art, là, au Louvre, écrivent le Christ descendu aux limbes. Mais non, ça n'est pas les limbes. Il faut lire l'évangile de Nicodème. C'est pas possible, vous avez bien vu l'extrait que je vous ai mis. On parle de Satan, on n'est pas dans les limbes. Alors, tout ça, pourquoi ? Par pudibonderie. Parce qu'on ne peut pas imaginer une seconde que le Christ soit descendu jusqu'aux enfers pour tirer les âmes que ceux qui normalement auraient été damnés. C'est quand même le péché originel. Vous vous rendez compte ce que ça représente, ça ? Cette croyance-là au pied du jubé ? Non ? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas du tout affreux. Non, la fête, c'est que vous n'êtes pas... Parce que, monsieur, vous n'êtes pas un homme du Moyen-Âge. Imaginez, vous êtes un homme du Moyen-Âge et vous croyez à la résurrection, à la fin des temps. Ça ne peut que vous aider de penser que le Christ est descendu aux enfers et a tiré les auteurs du péché originel. C'est tout. C'est une merveilleuse croyance. Ça serait bien d'y croire, vous savez, franchement. Oui.
Mais en fait, dans le texte, il n'est pas écrit...
Ma chère Mireille, vous la connaissez, Mireille pose toujours une question... Mais elle ne pose pas seulement une question, elle fait un commentaire. Alors, je prendrai... Merci Mireille, parce que tu poses toujours des questions très intéressantes, la preuve. Est-ce qu'il y a une dernière question ? À moins que... Qui c'est cette jeune fille qui voulait parler ?
Tout au fond.
C'est elle ! Ah, mais Mireille... On va arrêter avec Mireille. Parce que si on commence avec Mireille, je vais te dire... Hein, oui. Tu as peut-être envie de te reposer, et bien tu en as jusqu'à ce soir. Pose des questions très intéressantes. Non, mais c'est vrai que tu réussis à nous amuser, hein, mais ce n'était pas amusant du tout au Moyen Âge. Parce que quand tu vois un usurier, hein, qui rend l'argent qu'il a pris
Et puis qui en donne encore. Ça prouve qu'il avait drôlement peur de l'enfer, t'es bien d'accord avec moi? Bon, il avait drôlement la trouille. Hein.
Attendez, la mère de Millon, oui, elle dit, alors je vous cite de mémoire, hein, de Moutier-Suis, dont je suis paroissienne, qu'est-ce que je vois? L'enfer voit, qui me fait peur, et le paradis, qui me réjouit. Voilà, c'est à peu près ça qu'elle dit. Ben oui, évidemment, c'est cette dichotomie. C'est cette dichotomie dont il faut être absolument conscient. Hein? C'est cette dichotomie, c'est l'un ou l'autre. Alors, on pensant que de toute façon, à la fin des temps, voyez donc quoi, vous pas mourir. Alors, c'est là votre problème. Parce que si vous êtes dans votre tombeau et que vous n'êtes pas content, par exemple, ben vous pouvez revenir là. Faire le revenant et antiquiter tout le monde. Il y a beaucoup de. Il y a des croyances extraordinaires, il y a des livres extraordinaires. Il faut lire Jean-Paul Schmitt sur les revenants, et puis Jérôme Bachet sur l'enfer. Mademoiselle, si vous voulez lire des choses sur le problème, c'est vers Jérôme Bachet, B-A-S-C-H-E-T, qui vous expliquera avec un volume haut comme ça que c'est que la. Effectivement, les différents jugements. Et Jean 22 s'est appliqué, à savoir comment on allait pouvoir faire. Mais ça n'était pas forcément de la théologie.
Jean 22, il a vécu à quelle époque?
Au début du 14e.
Ah oui, parce qu'après, il y a eu un Jean 23, alors tu me faisais un peu peur.
C'est ce pape, voilà. C'est Jean 22 de la vision, donc il est rayé de la carte.
Oui.
Non, il est rayé de la carte. C'est ce Jean 22 qu'on avait élu en disant, il est tellement vieux, et c'est un crétin qu'on mènera, et il a vécu très longtemps.
Alors, écoute, je vais te dire
quelque chose. Toujours se méfier. Hein.
Nous avons eu un conférencier qui s'est présenté ainsi à nous. Je suis un homme du 19e siècle. Je ne dirais pas que tu es une femme du Moyen Âge parce que franchement, ce serait pas gentil. Alors, je vais dire.
Si j'étais une femme du Moyen Âge, je serais morte.
Que tu es une grande médiéviste, nous le savons, et nous te remercions infiniment d'être venu parmi nous. Et on sait la place que tu occupes. Dans les ouvrages que tu consacres au Moyen-Âge, n'oubliez pas que c'est aussi... Alors, tu as écrit aussi plein de livres, et il n'y a qu'à chercher, hein, on trouve tes conférences, et en particulier sur la criminalité et la justice au Moyen-Âge. Et croyez-moi que parfois ça fait froid dans le dos. Par exemple, j'ai vu quelque chose avec une image, et on voyait quelqu'un qui était au pied là, du gibet, bien sûr, et il y avait marqué « Digne d'être pendu » car inutile au monde. Ça fait peur. On l'applaudit encore.
Ça, c'est donc condamné au Moyen-Âge et c'est dans le registre du Saguenay.
C'est dans un de tes bouquins. C'est dans un de tes bouquins.